Herz Donne, battement de cœur, le podcast de la Fédération Suisse des Sages-Femmes. Le suivi de la grossesse physiologique fait partie intégrante des compétences de la sage-femme, que ce soit à l'hôpital, en maison de naissance ou en pratique indépendante. Pourtant, peu de couples ou futures mères ont recours à cette prestation. Quel suivi exactement peut assurer une sage-femme ? Dans quelles conditions doit-elle passer la main à un médecin ? Et dans ce cas, comment s'organise la collaboration ? Quels sont les avantages d'un suivi de grossesse auprès d'une sage-femme ? Toutes ces questions seront abordées dans ce nouvel épisode du podcast Battement de cœur. Je suis Jeanne Rey et je rencontre aujourd'hui Claire Ajoubert, sage-femme sous propre responsabilité professionnelle dans le canton de Vaud. Nous rendons visite à Charline et Johan, parents de Soane, 2 ans et demi, et qui ont donné naissance à Maë il y a un mois. Pour les deux grossesses, ils ont choisi le suivi avec Claire Ajoubert. Je vais donc leur demander à tous les trois ce qu'apporte spécifiquement un suivi de la grossesse par une sage-femme, du côté de la famille, mais aussi du côté de la professionnelle. Bonjour Charline, bonjour Johan, bonjour Claire.
Bonjour.
Merci Charline et Johan de nous accueillir chez vous pour cette discussion. Est-ce que je peux vous demander déjà de commencer par vous présenter ?
Donc moi c'est Charline, j'ai 36 ans. Du coup nous on vient d'avoir le deuxième enfant et puis voilà, pour l'instant un peu de fatigue mais tout va bien.
Comment il s'appelle ?
Maë, le deuxième.
Et l'aîné ?
Soane.
Et quel âge ils ont tous les deux ?
Alors Soane il a bientôt 2 ans et demi et Maë ben, il vient d'avoir 5 semaines.
Et Johan ?
Bonjour, moi c'est Johan. Pas grand-chose à rajouter, ça fait 17 ans qu'on est ensemble et voilà.
Et Claire alors ?
Bonjour, moi c'est Claire Ajoubert, je suis sage-femme indépendante dans la région de Nyon. Je fais ce qu'on appelle du suivi global, donc je suis les grossesses, j'accompagne les accouchements, je suis les mamans aussi dans le démarrage de leur vie avec leur bébé en postpartum. Et ça depuis 17 ans maintenant. Voilà.
Alors, peut-être déjà une question à Charline et Johan. Avant d'avoir des enfants, quelle représentation vous aviez du suivi de la grossesse et puis peut-être de la profession de sage-femme ?
Alors c'est vrai que moi je m'étais pas trop renseignée avant de tomber enceinte sur ça parce que voilà, on s'est dit qu'on allait voir sur le moment, mais j'imaginais peut-être plus la sage-femme à l'hôpital pendant l'accouchement. J'avais pas forcément pensé au suivi de grossesse, en pensant que c'était la gynéco qui faisait les suivis de grossesse. Mais peut-être un peu naïvement, je connaissais pas trop le métier de sage-femme.
Et alors, qu'est-ce qui vous a dirigé vers un suivi par une sage-femme ?
Alors nous, j'avais entendu parler de la doula. Et on était au départ, voilà, on avait pris contact avec une doula qui, elle, nous a un peu ouvert l'esprit sur la maison de naissance et sur le suivi sage-femme. Via la maison de naissance. Et donc, c'est là qu'on a fait appel à Claire.
Et Johan, comment vous positionniez-vous avec ce suivi par une sage-femme ?
En rebondissant sur ce que Charline disait, une fois qu'on commence à se plonger là-dedans, il y a 1 million de questions qui s'ouvrent. Et on était déjà assez tard parce qu'on a contacté Claire. Charline était à 5 mois de grossesse, je crois. Donc, c'était déjà bien avancé. Et on s'est dit, mais en fait, ce serait super de rencontrer quelqu'un. Bah, coup de chance, et qui on s'entend bien, qui fasse le, bah, justement, d'un coup, on s'est dit d'avoir quelqu'un qui nous suit, qui nous connaît avant, pendant, après, ça semblait assez idéal et logique. Donc, sur Soane, ça, on a eu le avant et le après, et puis pas le pendant. Mais, sur Maë, on a tout eu, et puis, en fait, dans les deux cas, c'était très très bien comme ça. Je trouve que ça, on avance mieux. Voilà.
Alors, on va y revenir sur le, effectivement, comment ça s'est passé le long de la grossesse, de l'accouchement, etc. Mais avant, j'aimerais demander à Claire, depuis quand tu assures des suivis de grossesse notamment, ou ce qu'on appelle le suivi global, donc grossesse, accouchement, postpartum, et est-ce que dans toute ton activité, ça, le suivi de grossesse, ça représente une grande partie de ton activité ?
Alors moi, je pense que j'ai eu de la chance, contrairement peut-être à d'autres collègues, de le faire dès le début de ma pratique. En fait, donc je dis ça que c'est une chance parce que ça m'a permis d'éviter d'avoir des appréhensions sur certaines pratiques, en tout cas, parce que j'étais coachée d'une sage-femme qui faisait déjà ça aussi comme activité. Donc, pour le coup, ça fait donc 17 ans que je fais le tout. En termes de représentativité, dans le comme je fais quasi que du global, donc à savoir une offre complète du suivi, je dirais qu'il y a un tiers de mon activité, pour le coup, qui est fait du suivi de grossesse, avec des gens qui ont, comme la demande de Charline et Johan, une envie d'être présente aussi à l'accouchement et au postpartum. Et puis, je dirais que j'ai peut-être, deux, trois dames par année, donc c'est quand même très anecdotique, qui veulent que un suivi de grossesse et pas forcément le tout.
Mais parce que justement, c'est une question qu'on se pose assez rapidement, c'est est-ce que, le suivi de grossesse fait partie des compétences sage-femme, mais est-ce que beaucoup de personnes ont accès à cela? C'est vrai que c'est loin des représentations qu'on a habituellement du suivi lambda d'une grossesse.
Je pense qu'au niveau suisse, effectivement, dans le process en fait d'une dame, je pense que quand elle découvre une grossesse, elle a tendance en fait à appeler son gynécologue qui va valider la grossesse, puis de manière complètement naturelle, les rendez-vous s'enchaînent chez le gynécologue. Et lui va plutôt vous parler de la sage-femme pour ou le cours de préparation à la naissance, ou le après en fait pour le postpartum. Et c'est vrai que de ce fait-là, la femme n'a pas cette possibilité, enfin en tout cas elle n'a pas accès à ce champ de manière initiale en début de grossesse en disant tu peux aussi, parce que tu es une grossesse à bas risque ou à moyen risque, on peut collaborer avec la sage-femme, t'orienter vers la sage-femme. Donc c'est vrai que les femmes, elles viennent vers moi parce qu'elles sont dans un suivi global. Donc elles sont là, moi je veux quelqu'un à l'accouchement. Et comme dit Johan, il y avait quelque chose de l'ordre où je ne peux pas rencontrer la sage-femme dernière minute, puisque le but c'est quand même qu'elle me connaisse. Donc nous, elles vont venir plutôt vers nous dans le cadre d'accompagnement de suivi global. Et puis pour les femmes qui, de manière anecdotique, viennent, justement c'est parce que elles viennent d'un autre pays. Mais ici, culturellement, c'est moins connu et le process se fait comme gynécologue et puis maternité.
Pour rebondir sur ça, sur la première grossesse de Charline, c'est vrai que ça s'est enchaîné très vite et que on est perdu. Donc on dit oui, on nous place des rendez-vous. Et si par nous-mêmes, on ne va pas chercher un peu plus d'informations, on est dedans, on va jusqu'au bout dans le système et puis voilà. Alors, c'est pas une mauvaise chose ou une bonne chose, c'est comme ça, c'est un fait.
C'est presque même dur d'en sortir, en fait, parce que finalement, tous les rendez-vous étaient fixés. Et donc, quand on a eu cette envie de maison de naissance et donc le suivi aussi par Claire de la grossesse, c'était dur même physiquement d'annuler les rendez-vous et aussi par rapport à comment annoncer à la gynécologue. Donc, c'était aussi dur d'annoncer ça.
Alors Claire, justement, en quoi consiste ce suivi de grossesse précisément? Et puis aussi, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus voir de médecin?
Bon, je rebondis sur plus voir de médecin. Disons que c'est plutôt que chacun a un peu ses compétences, puis qu'est-ce qu'on va chercher à quel moment. Donc, bien sûr qu'il faut de tout, et je pense que la collaboration est un élément clé, et la complémentarité est aussi importante. Une maison de naissance, je fais l'aparté là-dessus, elle peut fonctionner que si j'ai un hôpital à côté. Il n'y a rien en opposition. On est ensemble, en fait, parce que par moment, j'ai besoin d'eux. Pour une grossesse, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense n'existe pas aujourd'hui un suivi de grossesse de qualité où on peut se dire qu'on a zéro échographie, par exemple. Puis l'échographie, dans la grande majorité en Suisse, est quand même faite par un médecin spécialisé. Il y a des sages-femmes aussi qui sont spécialisées en échographie, mais qui sont quand même aujourd'hui en Suisse sous responsabilité d'un médecin. Et oui, parce qu'en fait, on doit déjà valider qu'il y ait bien un bébé, deux bébés, où est placé le placenta. C'est quand même un basique. Donc, on ne peut pas se passer du médical pur, entre guillemets. Par contre, je dirais que moi, la plus-value que je vois, c'est une histoire de globalité dans ma prise en charge. C'est-à-dire qu'avec un peu d'humour, souvent, je dis, mon objectif n'est pas juste de me dire qu'il y a un fœtus qui croît dans cet utérus. Autour, en fait, il y a une famille. Et donc, forcément, on va prendre le temps de découvrir qui est cette famille avec ses besoins. Et finalement, si je suis très biomédicale que dans mon entretien, dans mon rendez-vous, c'est sûr qu'en 15 minutes, c'est fini. Si je ne parle pas aux gens, c'est très rapide de prendre une tension, faire un stick urinaire, vérifier que le fœtus est en vie et vérifier les œdèmes, les pertes. Puis après, pour moi, ce qui est challengeant et intéressant, c'est de découvrir, en fait, typiquement, si on prend le cas de Charline, qui était Charline dans cette première grossesse, mais aussi qui était Charline dans la deuxième grossesse, avec une forme d'expertise, avec des éléments où elle sera en force, d'autres où elle aura des craintes, notamment l'accouchement. En fait, la première fois, elle n'a pas été au bout du projet qu'elle voulait, elle a réussi magnifiquement à s'adapter. Mais forcément, elle repart pour un projet qui paraissait similaire en se disant, ben, est-ce que je vais y arriver vraiment comme je l'ai envie? Et en fait, pour moi, au niveau de la sage-femme, c'est pour moi vraiment la force et la plus-value d'aller sur tous les plans. Et après, ben, ces plans, parfois, sont selon les consultations plus ou moins importants. On fait pas, on n'est pas psychologue, mais en même temps, il y a des moments où on doit s'arrêter un plus longtemps sur le côté psychologique. D'autres moments, ben, on n'est pas médecin, mais on doit prendre du temps sur le médical. Et en fait, ça oscille comme ça sur la consultation.
Dans le suivi classique, certaines femmes sont suivies à l'hôpital, parce que voilà, elles ont commencé à être suivies à l'hôpital. Et dans ces cas-là, elles ont plus de chances d'avoir des consultations auprès d'une sage-femme à l'hôpital, les consultations de grossesse. Est-ce qu'il y a une différence entre le suivi que toi tu assures en indépendante ou sous propre responsabilité professionnelle et le suivi qui est assuré par des sages-femmes à l'hôpital?
Bon, si je fais une petite réponse départ de Normand, je dirais qu'il faudrait qu'on demande à la dame qui aurait suivi les deux, mais dans ma projection, j'imagine que en fait moi je vais extrapoler un petit peu plus large dans mes questions et dans ce que je vais amener au couple parce que je sais que j'ai à suivre aussi le postpartum. Donc forcément je vais être moins sur une vision de je dois amener cette dame à l'accouchement, mais je dois l'amener aussi dans son projet d'après et ça reste toujours moi en fait qui est là. Donc si par exemple elle me spécifie qu'elle a un problème au niveau de la poitrine, je sais que je dois aller fouiller pour savoir s'il y a une vraie impact sur le postpartum, sur l'allaitement, parce que bah, je vais être l'accompagner dans cette difficulté. Que finalement, si je suis en maternité dans le cadre d'aller vers une naissance, bah, ma foi, je vais le noter dans le dossier, mais je vais pas aller au-delà de qu'est-ce que ça symbolise pour elle, qu'est-ce que ça veut dire si on a des difficultés après dans ce projet-là. Donc je pense que c'est, la différence est principalement là, au niveau de qu'est-ce que je vais travailler, quels sont les points à explorer plus grandement. L'autre chose aussi, c'est que les sages-femmes de maternité qui font du suivi des consultations, il y a très peu de maternités où elles tournent aussi à l'accouchement, parce que c'est une histoire d'organisation de structure. Hein. À l'époque, oui, on avait des petites maternités, elles tournaient de service en service. Et donc moi, c'est pareil, j'ai le même aspect sur la partie accouchement, où si elles me nomment des peurs, je vais vraiment devoir les garder en tête parce que je vais les retrouver probablement à l'accouchement. Idéalement, on les solde avant si on peut, mais voilà. Donc, pour moi, c'est plus cette vision à moyen-long terme qui va être la plus-value.
Et puis toi, tu travailles aussi de manière absolument autonome. Est-ce que ça fait une différence aussi?
Alors, c'est vrai qu'en étant en indépendante, on va se retrouver en fait dans le suivi de grossesse physiologique, clairement en autonomie, et c'est une des plus belles compétences qu'on a quand même réussi à valider, à faire reconnaître. Donc, pour moi, c'est plutôt une chance. Ça peut être quand même parfois une forme de pression aussi de dire je suis responsable de l'entièreté de ce suivi, que ce soit sur les examens paramédicaux qui sont prescrits, l'analyse, l'interprétation et la recherche de solutions. Mais pour moi, voilà, c'est plutôt quelque chose de challengeant et de gratifiant aussi dans notre profession de faire reconnaître notre expertise en physiologie. Et puis, il y a vraiment que dans les cas à risque où on va vraiment collaborer.
Pour le préciser quand même à un moment, qu'est-ce que ça veut dire la physiologie?
Voilà, là, on est presque sur un concept philosophique, mais disons que la physiologie, c'est qu'on va dire que on a une absence de facteurs de risque qui pourraient entraîner une complication. Donc, bien sûr qu'il y a toujours deux versants. C'est pour ça que je dis l'aspect philosophique, c'est qu'il y a ceux qui vont nous dire en fait que on sait qu'une grossesse est physiologique que quand elle se termine, c'est-à-dire que tout est à risque et ça devient physiologique. Normalement, la sage-femme, on est plutôt l'inverse. En absence de feu orange, c'est que l'histoire est verte, donc ça veut dire que bon voilà, la maman elle a un bébé qui croît normalement dans son ventre, selon un peu nos critères, elle est en bonne santé physique, psychique, émotionnelle, avec bien sûr toujours il y a des changements, donc ces changements suscitent voilà des adaptations au corps, mais c'est pas pour autant que ça en fait une pathologie.
Et s'il y a besoin, tu peux être amenée à travailler en collaboration avec des médecins. Est-ce que tu prends contact avec les médecins? Est-ce que ça passe par les patientes? Comment est-ce que ça s'organise, cette collaboration?
Alors, inévitablement, c'est personne dépendante. Moi, je dirais que le gros idéal d'une vie, c'est que la dame, elle nous aimait en fait son projet et qu'on puisse avoir un échange direct entre professionnels. Ça, c'est le top. Après, la réalité de l'échange direct, c'est une histoire d'agenda. Donc, au minimum, un échange via mail sécurisé sur les données et de se dire que s'il y a un élément un petit peu hors norme ou un peu inhabituel, on puisse avoir un contact direct. Et puis après, on définit avec le gynéco qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il se tient à disposition pour une collaboration en cas de besoin? Est-ce que c'est pas envisageable pour lui? Il y a certaines personnes, c'est leur limite en disant, elle est plus ma patiente pour la fin de cette grossesse, elle devient la vôtre et vous vous débrouillez en cas de souci. Et puis d'autres, absolument aucun problème, très ouvert. D'autres où il y a déjà encore un ou deux rendez-vous agendés chez le gynécologue. Notamment si on prend l'écho de 32 semaines, il se dit, elle a qu'à revenir chez moi. Ou si on sait qu'elle a un métier qui va nécessiter un ajustement de temps de travail, dont la sage-femme n'aura pas les compétences de pouvoir le modifier, il dit « bon, je vous revois directement à ce moment-là ». Donc l'idée, c'est qu'en début de grossesse, on puisse faire un peu un plan de dans quelle mesure on pourrait collaborer ou pas et savoir comment les gens se tiennent disponibles en cas d'inattendu.
Charline, comment ça s'est passé pour vous, du coup? Vous avez rencontré Claire à 5 mois de grossesse. Comment ça s'est passé une fois que vous avez rencontré Claire?
Alors, c'est vrai que Claire, donc on nous l'avait recommandé. Et donc on l'a rencontrée, donc au départ, juste discuter, de voir, comment allait la grossesse, je pense, pour voir aussi si justement tout allait bien dans ma grossesse, si je pouvais faire ce suivi et l'accouchement potentiellement en maison de naissance, si j'étais pas à risque. Et puis du coup là, on a assez vite validé notre projet d'envie, en tout cas d'accouchement en maison de naissance. Et après, on a fait des contrôles du suivi de grossesse. Juste après ça, en fait, on a arrêté avec la gynécologue et le cabinet gynécologique pour continuer avec Claire.
Donc vous avez dû l'annoncer à votre gynéco. Comment ça s'est passé pour vous?
Oui, donc on a pris la décision de continuer le suivi avec Claire Ajoubert. Donc on a dû annoncer à notre gynécologue, ma gynécologue. Et du coup là, c'était vraiment, elle acceptait, mais fallait qu'on soit clair. Qu'on arrête avec elle complètement et on fasse tout le reste avec la sage-femme. Elle voulait pas de doublons et puis voilà, que si on arrêtait, si on partait avec la sage-femme, elle nous suivait pas en parallèle. Nous, ça nous allait, mais c'est vrai que c'est pas facile à annoncer, en fait. C'est comme si on devait, licencier quelqu'un, alors que bon, c'est la gynéco, mais dire, on arrête de travailler avec vous. Puis on sent peut-être un peu de jugement et de reproche, peut-être indirectement.
Et comment ça se passait pour vous, alors, ce suivi? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce suivi-là?
Alors, c'est vrai que pour nous, ça nous tenait à cœur d'avoir la même personne qui nous suivait pour la grossesse, qui pouvait potentiellement nous s'occuper de nous pour l'accouchement et en postpartum. Et puis, comme disait Johan, c'était aussi qu'on s'entende bien avec avec la sage-femme, parce que c'est sûr que c'est des moments où on n'est pas toujours à l'aise de se déshabiller ou de parler de ce qui va bien, ce qui va pas. Et puis pour moi, c'était important de me sentir à l'aise et puis en confiance avec la personne.
Et alors, Johan l'a déjà évoqué, l'accouchement finalement n'a pas pu avoir lieu en maison de naissance pour votre aîné. Est-ce que vous pouvez raconter pourquoi? Et puis surtout, qu'est-ce qui vous a fait revenir après quand même pour le deuxième auprès de Claire?
Alors pour le premier accouchement, donc en fait, on a commencé le travail en maison de naissance. Pour la petite anecdote, en fait, du coup, c'était pas Claire qui était là pour nous accueillir, parce que le hasard du calendrier, de la lune ou autre, a fait que on était 3 femmes à accoucher le même soir, et donc elles étaient 2 sages-femmes, alors donc il y avait même la 3e qui du coup ne faisait plus normalement, je crois, les accouchements, qui nous a accueillis ce soir-là. C'était un peu compliqué par rapport à de la tachycardie que je faisais, et puis aussi en parallèle, je dilatais plus, et puis donc ça a été décidé de me transférer à l'hôpital pour une péridurale et puis finir. Mais on a quand même accouché par voie basse à l'hôpital et ça s'est très bien passé.
Mais vous êtes revenue quand même quelques temps après. Bon, alors Claire a suivi votre postpartum, évidemment, mais après vous avez souhaité retenter l'accouchement en maison de naissance et surtout avoir ce suivi global aussi auprès de Claire.
Ah, c'est sûr qu'à la 2e grossesse, c'était clair dès le départ pour Johan et moi qu'on voulait refaire le suivi global avec Claire. On va dire indépendamment de l'accouchement qui a été fait À l'hôpital, en fait, on était sûr qu'on voulait recontinuer avec Claire et aussi, bien sûr, retenter le coup en maison de naissance. Et donc là, c'est aussi là qu'on, bah voilà, on a redemandé à Claire qu'est-ce qu'elle voyait, est-ce que le fait d'avoir été transférée la première fois, est-ce que ça remettait en cause un potentiel accouchement en maison de naissance. Mais je pense que même si, je sais pas ce que pense Johan, mais je pense que même si on n'avait pas pu accoucher en maison de naissance, c'est possible qu'on sera encore passé par Claire. Pour le suivi de grossesse, en fait, je pense que c'est aussi une histoire d'entente et de confiance avec la sage-femme.
Johan ?
Ouais, pour compléter ce que disait Charline, on marche beaucoup en fait à l'humain et à cette relation. Si je reprends juste au début, la seule chose qui faisait qu'on s'oriente pas forcément spontanément vers la maison de naissance, c'est l'inconnu et la crainte. On a spontanément l'impression qu'à l'hôpital, on va être mieux entouré, que s'il y a des complications, on va être mieux suivi, etc. Et puis au moment où on a compris qu'il y a d'autres possibilités et qu'en fait on est entre de bonnes mains et que si ça venait à mal se passer entre guillemets ou du moins juste des complications comme on a eu sur la première grossesse, ça va, c'est ok, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on était rassuré, on était parti là-dedans. Donc ça c'était la première chose qui était hyper importante. Et puis comme elle a dit, la question s'est même pas vraiment posée sur la deuxième grossesse de retourner à la maison de naissance, c'est que l'avant était parfait, l'après était parfait, l'accouchement s'est pas déroulé comme souhaité, mais au final on n'était pas avec Claire, donc nous on s'est dit si on comprend les raisons qui ont fait que ça s'est pas passé comme on imaginait sur le premier, on est peut-être capable de les corriger. Et on en a beaucoup discuté avec Claire et on a été tout à fait capable de les corriger. Et le deuxième accouchement s'est passé de manière idéale. Donc c'était un peu... c'était un combo de plusieurs choses. Mais en fait, à la fin, c'est vraiment cette relation de confiance qui nous amène à faire ça, quoi.
Donc vous étiez en confiance, médicalement parlant, absolument, concernant le suivi de grossesse, l'accouchement, etc.
Ah oui, nous, on était totalement en confiance. Et puis on savait que... Voilà, c'était pas, on prenait pas un risque en allant maison de naissance parce que justement tout était checké, si tout allait bien, comme Claire l'a dit, hein, que ça soit physiquement, mentalement, si on n'était pas à risque.
Claire, pour revenir au suivi, est-ce qu'il y a des limites dans le suivi que tu peux assurer ?
Alors les limites, elles vont être au niveau de l'autonomie. Je pense que toute femme enceinte peut être suivie par une sage-femme. Elle va juste devoir avoir plus ou moins d'intervenants selon la complexité d'une éventuelle pathologie à différents niveaux. Donc c'est sûr qu'un bébé qui est malade, qui aurait besoin d'examen à son arrivée, va devoir être suivi par un échographe spécialisé, un hôpital associé, puisque cet enfant devra voir naître à l'hôpital, une maman qui se sent pas bien au niveau psychologique, au-delà d'un petit mal-être hormonal passager, va devoir être pris en charge par un psychologue ou un psychiatre. Donc je dirais que notre limite, elle est plutôt, on va devoir augmenter l'équipe pluridisciplinaire autour d'une femme enceinte selon la complexité. Mais pour moi, toute femme qui est enceinte devrait être accompagnée par une sage-femme et ne pas être limitée à ça, à ne pas l'avoir en tout cas parce qu'il y a une pathologie. Donc parce qu'on a différents aspects qu'on va devoir travailler et l'état de grossesse, enfin de nouveau, la sage-femme est quand même experte à ce niveau-là. Parce que chaque personne d'une équipe pluridisciplinaire est dans sa spécialité. Prenons un bébé qui est malade, en fait on va voir les plus grands spécialistes autour de cette maladie, mais personne, donc cette femme, elle va passer par des phases d'angoisse, de stress, on va lui expliquer qu'est-ce qui va se passer pour ce bébé à l'arrivée, et puis en fait personne s'arrête de nouveau pour dire « mais en fait elle attend quand même déjà juste un bébé ». Au-delà qu'il soit malade, et la pathologie, c'est un bébé. Donc qui se demandait si elle a un peu mal au dos, qui se demandait comment elle dort, qui se demandait comment elle mange. Mais en fait, personne, parce que tout le monde fait focus sur la maladie de cet enfant, et tout le monde le voit à travers que ça. Et pour moi, la sage-femme, normalement, ben voilà, elle refait un temps d'arrêt avec des choses aussi, des fois, très pratico-pratiques. Est-ce que tu as préparé la chambre ? Est-ce que vous avez tel ou tel matériel ? Comment on imagine l'accouchement ? Et voilà, donc pour moi, oui, bien sûr qu'elle doit être là, encore plus s'il y a mille et un spécialistes qui va être expert dans son propre domaine.
Charline, vous pensez que ce suivi vous a apporté quoi, finalement, pendant vos grossesses ?
Alors, c'est dur à comparer avec vraiment un suivi gynécologique jusqu'au bout, parce qu'on l'a pas fait jusqu'au bout, mais... En tout cas, nous, c'est ce côté aussi confiance. Et puis, moi, j'étais vraiment à l'aise à tous les rendez-vous où on a l'impression d'être presque à la maison, alors que ça reste un contrôle médical, mais on peut parler aussi de comment on se sent et on sent qu'on a le temps d'expliquer aussi ce qui va, ce qui va pas. Bien sûr que la gynécologue va nous demander pendant les contrôles, est-ce que ça va ? On va dire oui, mais ça va pas aller vraiment dans les détails ou peut-être parce que moi je me sentais pas à l'aise, hein, peut-être, mais aussi on a l'impression que voilà, tout est timé, alors que bon là je peux parler que de Claire parce qu'on connaît que elle dans ce suivi de grossesse, mais en tout cas on se sent à l'aise de poser nos questions et de prendre le temps, puis elle prend vraiment le temps de nous répondre à toutes voilà à toutes nos questions, que ça soit psychologique, matériel aussi, et puis pour être prêt dans tous les domaines, parce que ça soit dans ses questions à elle pendant les contrôles, du coup, est-ce que ça va bien le boulot, est-ce que t'arrives encore, est-ce que ton dos ça va mieux, parce que la semaine passée ou autre ça allait pas, tu m'as dit ça, puis de voir aussi voilà que ben voilà tout ce qu'on a dit ben c'est entendu et voilà on a un suivi de dans tous les côtés, toutes les dimensions.
Johan, vous réagissez.
On n'est jamais sorti d'un rendez-vous. Comment dire, on n'a jamais trouvé contraignant d'aller à un rendez-vous, alors qu'à chaque fois que c'est médical ou hôpital, on est moins fan. Donc ça, ça veut dire l'état psychologique dans lequel on est à chaque fois. Et oui, ce côté, elle est là pour nous, vraiment. J'ai jamais l'impression, comme disait Charline, qu'elle a compté le temps. On a jamais dû courir. Et donc ça rend la chose. À chaque fois qu'on sortait d'un rendez-vous, on était, c'est quand même, ça nous fait plaisir en fait. Ça nous faisait plaisir de venir la voir. Donc c'est quand même plutôt pas mal, sachant que voilà, c'est quand même pas anodin une grossesse. Et ça s'est toujours bien passé. Ouais.
Je trouve intéressant parce que, pour être très honnête, on n'a jamais eu cet échange-là pour savoir finalement comment ils se sentent à la fin. Disons que pour moi, je me reconnais dans ce que dit Charline. Pour moi, j'ai vraiment besoin que les gens y repartent du rendez-vous sans avoir d'éléments où ils n'ont pas eu un temps de parole alors que ça les questionnait. Bien sûr que j'ai pas la prétention d'avoir les réponses pour tout. Il y a certains éléments où on se dit, j'entends ce que tu dis, je prends acte, mais voilà, il va falloir qu'on continue comme ça. Et pour moi, c'est vraiment ça. La femme enceinte, peu importe le nombre d'enfants qu'elle a, elle doit s'arrêter un temps dans sa semaine, dans son mois, pour repartir un peu en introspection de comment fait cette grossesse, comment je me sens. Et pour moi, le temps chez la sage-femme, il est à ce niveau-là. Pour moi, c'est surtout aussi une grande plus-value. Ce temps qui est donné peut paraître des fois de se dire, non, mais bien sûr qu'on peut toujours raconter sa vie avec les uns et les autres, mais de nouveau, plus je les connais, plus je connais leurs forces, plus je connais les faiblesses et les forces, mieux en postpartum on peut travailler. Et pour moi, c'est hyper intéressant parce que ce gain de temps, je l'aurai en postpartum. Moins je prends du temps avec les couples, plus les gens vont me ressolliciter entre mes rendez-vous, plus ils vont poser des questions parce que je n'y ai pas répondu. De me dire, je m'arrête un temps, voilà, on a balayé, et aussi de leur donner de quoi s'armer face aux éventuels problèmes d'ici mon prochain rendez-vous. Voilà ce qui peut se passer, vous pouvez agir comme ça, comme ci, comme ça, avec toujours cette flexibilité de m'appeler. Ça, pour moi, c'est vraiment la plus-value de la sage-femme. Et ça, c'est notre chance dans la convention qu'on a, dans ce qui a été négocié pour nous.
Tu veux dire convention tarifaire, c'est ça, hein?
Alors sur la convention tarifaire, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est en termes de quand même de temps et pas d'acte. Alors bien sûr qu'on va pas prendre du temps pour prendre du temps, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je dois pas faire une chose, je dois pas lui faire une prise de sang pour me dire que la consultation est rentable. Et là, pour moi, ça permet vraiment d'aller sur tous les aspects, comme on a dit, strate psychologique, émotionnelle, médicale, biomédicale, parce que c'est une histoire de temps qualitatif. Et ça, pour moi, c'est vraiment un confort en termes de conditions de travail. Et je dirais même un luxe, en fait, d'avoir ce temps.
Au-delà de ce confort-là, très prosaïquement, c'est aussi dans une perspective de prévention, non ? De pouvoir accorder du temps dès la grossesse pour ce qui est en train d'arriver à ce couple, cette famille.
Bah, au niveau sage-femme, c'est effectivement le but. Le but a été de se dire qu'en fait, de nouveau, plus tu vas travailler en prévention, moins tu vas avoir de problèmes potentiels. Et d'un point de vue étatique, tu coûteras moins cher à la société, concrètement quand même. Hein. Pour la femme, forcément, y a quelque chose de très positif de ne pas avoir un problème qui s'est réalisé, au même titre que le conjoint, qui va ou le vivre aussi, ou le subir par ricochet, ainsi que pour la famille. Donc moi, c'est clair que la sage-femme, elle a un champ énorme d'action en termes préventifs. Et peut-être c'est aussi notre plus-value je pense que le médecin l'a aussi, mais il a une formation plutôt curative, pathologie, on doit soigner une pathologie. Nous, l'idée de la sage-femme, comme on avait dit tout à l'heure, c'est vraiment de rester dans la physiologie au maximum. Alors, bien sûr qu'on doit avoir nos yeux en alerte parce qu'on doit repérer les signes d'un facteur de risque, mais vraiment d'essayer de maintenir les gens en physiologie, et pour ça, ben, c'est énormément de prévention.
Alors, tu délivres des formations pour la Fédération Suisse des Sages-Femmes, donc adressées à tes collègues sages-femmes sur le suivi de grossesse. Pourquoi les sages-femmes ont besoin de se reformer sur le suivi de grossesse ?
Bah, disons que pour la pratique en extra-hospitalier, donc de pas être affilié à une structure, bah, très peu de sages-femmes font du suivi de grossesse. Donc la plupart du temps, c'est affilié à une pratique quand elles étaient en milieu hospitalier. Et puis en milieu hospitalier, on travaille quand même sous responsabilité du médecin chef de service. Et elles connaissent donc pas finalement cette autonomie pure, avec souvent beaucoup de peur. Elles voient plutôt souvent l'aspect limitant du suivi de grossesse, puisqu'on n'a pas une autonomie pleine en physiologie, oui, mais en facteur de risque, non. Donc elles ont tendance à se dire « Ah, mais si j'ai pas de médecin, je vais être limitée pour ça et ça, et je ne sais pas que faire. »
C'est-à-dire, concrètement ?
Alors concrètement, ça serait de se dire « Je dépiste une infection urinaire, mais j'ai pas d'autonomie pour prescrire un antibiotique. Donc en fait, je suis bloquée, comment je fais ? Vaut mieux qu'elle aille tout de suite chez le médecin. » Alors, il y a pas mal de suivi qu'on peut amener autour. Et oui, pour cet élément-là, on demandera une prescription à un médecin, mais ça n'empêchera pas que tu peux apporter quand même un suivi assez grand et lourd pendant quelques mois à cette famille. Et donc, en fait, ce qui est très drôle, c'est de se dire que cet aspect limitant, paradoxalement, toutes les sages-femmes qui font cette formation, elles me disent à chaque fois « Mais en fait, je suis là parce que j'ai envie. » Ça résonne en elles, elles ont parfois des demandes, puis elles sont là « Mais j'aimerais vraiment, mais je sais pas trop comment, ça paraît un peu insurmontable. » Et le fait de leur donner vraiment des outils, des manières de fonctionner, de reprendre bien sûr la loi et comment ça fonctionne en autonomie, c'est-à-dire sous sa propre responsabilité, et ben après, derrière, elles sont là, je me réjouis d'avoir la prochaine demande, parce que sinon, elles vont un peu dans la facilité de « je travaille sur bon, sur ordonnance, et je ne développe pas l'autonomie ». Ce qui est vraiment très dommage, parce que pour moi, la sage-femme, elle a une part d'autonomie qui est énorme, en fait.
Mais d'ailleurs, ça va changer, ça, dans la loi, bientôt. Les sages-femmes vont avoir plus d'autonomie de prescription, non ?
Alors oui, ça, c'est notre grande force en 2027. Le changement de la malle a déjà été fait, puis on espère qu'il y a un passage rapide dans les ordonnances. Mais l'idée, c'est que notre limitation, elle était vraiment au niveau de l'ordonnance. Puis c'est vrai que c'est un peu... Alors, l'ordonnance peut être faite par la sage-femme, on peut délivrer un traitement à une maman, mais elle n'est pas forcément prise en charge, cette ordonnance, ce qui est une forme d'aberration de se dire qu'on est limité à ça. Et en fait, oui, effectivement, on aura une autonomie beaucoup plus grande qui fera une cohérence dans l'autonomie, en fait.
Donc ces prescriptions concernent des médicaments et des analyses, hein, c'est ça ?
Alors les analyses, on était déjà bien lotis, donc on n'avait pas de soucis. Ça, c'était déjà bien remboursé, c'était vraiment principalement pour les médicaments. Certaines analyses, notamment, en fait, c'est pour le bébé. Le bébé, on n'était effectivement pas pris en charge parce que c'était vraiment que le pédiatre qui pouvait refaire les bons. Alors que dans la vraie vie, on faisait déjà les prises de sang chez le bébé pour le suivi de jaundice.
Et Charline, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement de déjà connaître votre sage-femme pour votre premier postpartum, puis du coup pour le deuxième aussi, on est en plein dedans d'ailleurs.
Oui, le premier postpartum, comment on a couché à l'hôpital. Donc on a vu Claire, je pense, 3 jours après, quand on est rentré assez tôt de l'hôpital et directement après on a vu Claire. Et c'est vrai que donc là on a pu aussi parler aussi de l'allaitement, parce que j'avoue que même à l'hôpital où j'ai eu des conseils d'allaitement, peut-être que... Ouais, je sais pas, j'ai eu besoin de plus de conseils, et puis Claire était là aussi à ce moment-là pour me conseiller là-dedans. Et puis que ça soit... c'est vrai que comme on se connaissait déjà, comme disait Claire, en fait, on se connaît depuis plusieurs mois, donc elle sait comment on est, comment on va, et puis on règle les détails du moment, du jour même, voilà, que ce soit l'allaitement ou pour postpartum de la maman.
Oui, tout le reste.
Tout le reste, ouais.
Et ce qui rend la chose bien, c'est que une fois qu'on est avec quelqu'un, ça limite le spectre d'interaction. On sait que si c'est pas clair, éventuellement c'est le pédiatre et qui en interagit, mais c'est tout. Et c'est plus simple. Et ça marche bien.
Le fait aussi de connaître les gens, pour moi, c'était, dans le cas par exemple de Charline et Johan, était très intéressant parce que Johan est un papa hyper impliqué, mais où je sens vraiment qu'il a sa place. Il n'est pas juste à côté d'eux. Et pour moi, c'était hyper intéressant de le percevoir déjà pendant la grossesse, parce que ça veut dire que tu peux aussi lui laisser cette place qu'il a envie. Et puis, si tu ne connais pas, ben, de nouveau, on fait un focus très maman. Et je pense que tu peux frustrer certains hommes, par exemple, de se dire, mais moi, je suis là à chaque fois, et puis je sens qu'elle me laisse pas d'espace, en fait, pour cette consultation. Au même titre, par exemple, Charline, on a de la chance, elle fait plutôt partie des femmes qui produisent passablement de lait. Et de nouveau, c'est quelque chose que quand tu connais, je sais que, enfin, dès la fin de grossesse, début, les premiers jours, on était déjà focus, ok, comment on va réguler tout ça? Mais parce qu'on se connaît, on sait déjà, comme je disais, un peu les points forts, les points à travailler. Et ça, pour nous, c'est aussi un gain d'énergie de se dire que, ben voilà, on connaît un peu les éléments, je sais ce qui va la questionner et j'ai pas besoin de donner une info standard. Je peux tout de suite adapter à qui elle est, même si c'est un peu contre-courant de ce qu'on peut lire dans des théories, mais parce que on a déjà pratiqué. Donc, mon sentiment, c'est que cette continuité, peu importe l'accouchement. Moi, j'aime bien dire que c'est la cerise sur le gâteau, l'accouchement. C'est pas une fin en soi, c'est le début d'une autre aventure, une qui se termine, une qui débute. Et ben, en fait, c'est un gros plus-value pour le couple, la famille, parce que, bah, typiquement, moi, j'ai connu Sohan, c'était hyper, donc leur aîné, c'était hyper intéressant aussi de le revoir, en fait, de faire la passation avec eux, de, il devient grand frère, avec ses espaces aussi, quand on vient le visiter, on le rencontre aussi, mais aussi la plus-value du côté professionnel. Parce que pour moi, c'est hyper intéressant, enrichissant de pouvoir avancer, de voir les choses qu'ils ont appréciées la fois d'avant, quelles sont les choses où je peux retravailler parce qu'ils aimeraient vivre autre chose, quelles sont celles qu'on consolide, quelles sont celles où on s'est dit, ben ça, on a essayé, mais c'était pas top. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper intéressant en termes qualité de soin, en fait. De se dire, grâce à ça, et l'espace aussi de pouvoir ajuster. Peut-être quand on dit qu'avec une sage-femme, ça s'est mal passé, je pense que si on la connaît pas, c'est aussi plus difficile de pouvoir lui dire ça, ça va pas. Parce que bah, les gens, des fois, ils servent, puis ils disent, bon, bah, encore 3 visites, puis on la verra plus. Alors que de là, de pouvoir dire, ben, bah, en fait, ça nous parle pas clair, mais ils sont en confiance d'avoir un espace pour pouvoir dire, viens, on ajuste différemment les choses.
Alors, peut-être avant de conclure, Claire, toi, donc finalement, tu as toujours fait ce suivi global. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, dans ta pratique de sage-femme, de pouvoir connaître les couples le plus tôt possible dans la grossesse?
Ah bah moi, clairement, une très grande satisfaction, parce qu'en fait, on sent vraiment qu'on... Ouais, on est vraiment là pour les accompagner, les aider à avancer dans ce rôle qui est quand même assez complexe de devenir parent. Et ça, pour moi, c'est vraiment... hyper jouissif en tant que professionnel de me dire que ben voilà, dans ma journée j'amène ça aux gens sans amener mes vérités, mais vraiment dans l'accompagner à ce niveau-là. Et mais bien sûr avec mon expertise médicale de pouvoir se dire ben voilà, je peux vraiment déceler des pathologies, accompagner ces gens, mais en même temps vraiment les accompagner dans leur voie de parentalité. Donc ouais, pour moi je trouve que à mon niveau de clairage ouvert, ma manière dont j'exerce est ma manière idéale. Où je me sens vraiment pleine dans les différents éléments, le avant, pendant, après. Et ben voilà, je suis contente si les gens en retour aussi se trouvent satisfaits de ce type d'accompagnement.
Alors, Charline et Johan, qu'est-ce que vous retirez, vous, de cette longue expérience maintenant que vous avez auprès de votre sage-femme, Johan?
Ben, que du positif, sachant qu'à la base, hein, on n'est pas du tout... contre le médical ou les hôpitaux, hein, on reste assez cartésien, scientifique, et c'est pas quelque chose qui s'oppose dans notre tête, mais si on venait à refaire un enfant, on ferait la même chose. Je pense que c'est la meilleure décision qu'on a prise à ce niveau-là. Et je le recommanderais à des gens s'ils se sentent à l'aise de le faire, en disant, n'ayez pas de crainte, si vous êtes suivi par quelqu'un de compétent, allez-y, quoi.
Mais pour vous, en tant que père, qu'est-ce que ça vous a apporté, vous pensez ?
Bah, comme disait Claire, et puis j'apprécie d'être impliqué. Enfin, d'être, je suis mis dans l'équation. Je suis pas mis de côté. On a toujours eu des conversations à trois, et je trouve c'est hyper agréable. Et puis bon, ça me donne envie de continuer à jouer ce rôle, parce que on trouve sa place, quoi.
Et pour vous, Charline?
Moi aussi, en fait, après ces deux expériences. En fait, voilà, on a eu des très belles expériences ici, donc en parlant à des amis ou à la famille, c'est pas que j'ai envie de les convaincre à ça, mais au moins de connaître, en fait, parce qu'en fait, on connaît pas forcément les autres options que l'option tracée depuis le gynécologue. Et au moins, voilà, d'être ouvert à ça. Et puis, bah, c'est vrai que nous, ça nous a donné confiance. Et puis, on a eu toutes les réponses aux questions qu'on avait. Et puis, et c'est pas fini.
Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Herzstone-up, battement de cœur. Le podcast de la Fédération suisse des sages-femmes.